Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Attention, la musique peut être 19h. Je viendrai. On est content ce soir. On va peut-être sortir, hein. On va faire la fiette, non? Vous aimez bien cette chanson, Julien?
Continue comme ça, tu vois ce qui va t'arriver.
On est en direct, hein, là. Je crois, vous êtes heureux?
Quelle ambiance, très heureux.
Ah, ça fait plaisir. On va commencer par une bonne nouvelle, puisque l'équipe de France est qualifiée. Et c'est l'hymne des Bleus. C'est l'hymne des Bleus, j'ai plein de petites surprises, peut-être qu'on aura des images dans le vestiaire, la fiesta dans le vestiaire. On ira bien sûr à Doha.
Moi je rejoins la surprise, c'est là que vous allez nous emmener en quart de finale.
Bah, ça y est, on y est.
Non, mais.
Ah, vous voulez que je.
Je
vais envoyer un petit message à Serge Nedjar, on verra. Le point sur l'information, bien sûr, et on va revoir les images de l'équipe de France. Bravo les Bleus!
Éric Ciotti et Bruno Retailleau qualifiés pour le second tour de l'élection du président des Républicains. Plus de 90 000 adhérents du parti ont voté ce week-end. Le député des Alpes-Maritimes arrive en tête avec 42,7% des suffrages, 34,5% pour le patron des sénateurs LR. Aurélien Pradi arrive du troisième, il est donc éliminé. Le deuxième tour aura lieu le week-end prochain. À Nice, la police tire sur le suspect d'un double meurtre. Les faits se sont produits ce matin rue Saint-François-de-Paul. Un Iranien de 48 ans en situation irrégulière a été repéré près du marché de Noël. Il a sorti une machette et un couteau pour agresser une policière. Cette dernière a alors tiré et touché l'homme à l'épaule. Celui-ci a été interpellé, connu de la police pour des affaires de droit commun. Il est suspecté du meurtre de 200 abris, retrouvé mort mercredi. L'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Mahsa Amini, une kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Sa mort en détention le 16 septembre a provoqué une vague de contestation qui perdure depuis près de 3 mois.
Voilà pour le point sur l'information avec Mathieu Devez. Mathieu Devez, à la 91e minute du match, il m'a montré son téléphone en me disant, tu vois, 2-0, j'avais tout vu, j'avais vu juste, j'étais le meilleur. Au final, 3 buts à 1. Il est dégoûté, Mathieu Devez. Donc c'est pour ça que...
Comment à 90...
91e, il y avait 2-0.
Ah,
3, non,
ah,
il y a eu 3-0, juste avant le but de l'équipe de France. Tiens, l'équipe de France, on va regarder les matchs, les images, puisque l'équipe de France s'est imposée. Bravo à nos Bleus. Franchement, ils ont fait un super match en 8e de finale de cette Coupe du Monde. La joie de Didier Deschamps, ça commence à la 44e minute avec le but d'Olivier Giroud, il devient officiellement le plus meilleur buteur de l'histoire des Bleus et dépasse Thierry Henry. 74e minute, le premier but de Mbappé, ça fait 2-0. Là, on commence à souffler, on se dit c'est bon. Et celui-là, quel bijou. On a l'impression d'être sur FIFA avec Kylian Mbappé, le doublé. Et puis en toute fin de rencontre, il y a ce but de Lewandowski sur pénalty qui est retiré. Les Bleus sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. On va rejoindre Louis Vix, notre envoyé spécial. Merci Louis Vix d'être avec nous. Vous êtes à Doha et vous êtes un homme heureux comme les 70 millions de Français ce soir. Franchement, une nouvelle fois, les Français ont fait honneur à leur statut, c'est-à-dire quand même de champion du monde en titre.
C'est vrai, la fusée bleue est lancée, Elliot, vers, on l'espère, les quarts de finale. Alors ça c'est sûr, mais on peut voir plus loin. En tout cas, les Bleus sont montés en puissance. Il y a eu une vingtaine de minutes compliquées en première période où les Polonais se sont créés des situations. Ça va être l'un des axes d'amélioration dans la semaine, puisqu'il y a 6 jours désormais à patienter avant le quart de finale. Que voulez-vous que je vous dise sur Kylian Mbappé? Ce garçon n'est pas constitué comme nous, il est différent. Il est sur des temps de passage records. D'ailleurs, le joli clin d'œil de l'histoire, c'est lui qui offre la passe décisive pour qu'Olivier Giroud devienne le seul meilleur buteur de l'histoire, 52e réalisation. Quant à Mbappé, à peine 24 ans, 33 buts en 63 sélections, c'est vous dire les temps de passage absolument phénoménaux sur lesquels Kylian Mbappé est en train de l'arriver. Et puis pour le reste, on a eu la confirmation qu'au milieu, Didier Deschamps avait trouvé la bonne formule. On a eu la confirmation également que défensivement, ça allait mieux. Jules Koundé a connu un match compliqué. Mais les Bleus sont lancés et vont pouvoir tranquillement regarder tout à l'heure le 8e de finale entre l'Angleterre et le Sénégal. Alors,
merci Louis Vix, merci à Mathilde Espinas qui vous accompagne. La joie des Français au micro de CNews. Et un petit mot et ensuite on passe au débat bien sûr.
Un peu bridé au départ, ça s'est
débloquer à la fin de la première mi-temps grâce au premier but. Franchement, c'est super, on est hyper contents. C'est le jour de mon anniversaire.
Alors, un bon match. On a pris de la confiance avec le 3-1. Mais je sens qu'il y a des faiblesses. Parfois techniques et parfois, c'est la défense qui peut poser problème.
Ils ont fait un match incroyable, un gros match. Et on aimerait qu'il y ait une continuité, une maintenance. Et pourquoi pas une troisième Coupe du Monde
de France. Voilà pour la joie des Français, parfois un peu dur. Emmanuel Macron avait vu juste. Il avait le prono, 3-1. Regardez ce qu'il a dit dans les colonnes du Parisien ce matin. Il a dit, bah ouais, 3-1, je pense qu'on gagne 3-1. Lewandowski va en mettre un, il a eu raison. Comme Mbappé ou peut-être Giroud, il a eu raison. Qui a envie d'entrer dans l'histoire? Et Joker pour le troisième but des Français, Emmanuel Macron. C'est un génie, Geoffroy Lejeune.
Un génie du pronostic sportif. Ouais.
Faut être honnête, il a pris un risque parce que ça se passe pas comme ça. Je peux vous dire qu'il s'en prend plein la tête sur la toile. Hein.
Bon, en un mot, ça fait du bien cette victoire. Ça fait même du bien au moral des Français avec les crises épidémiques, de l'énergie. Ce qui se passe dans cette Coupe du Monde, on oublie un peu les polémiques et on sourit un peu.
Ouais, c'est super. Moi, en plus, je faisais partie de ceux qui étaient un peu en stress avant avec l'avalanche de blessures qu'on a eues. Et là, je dois reconnaître que moi, c'est celui qui joue au milieu de terrain à la place de Pogba et Kanté. Il s'appelle Aurélien Tchouaméni, que je trouve exceptionnel, franchement. Et puis, je suis super content pour Giroud, quoi, qui rentre dans l'histoire. Et qui ne devrait pas être là, normalement, qui n'aurait pas dû être sélectionné, qui était jugé trop vieux, trop ringard et qui, en fait, marque l'histoire. Quoi.
Julien Drey.
D'abord, il y a une équipe. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait plaisir. C'est une vraie équipe, avoir un vrai esprit d'équipe avec des sacrifices. C'est-à-dire, on joue pas perso comme on dit. Mm. Premièrement, et après il y a des joueurs qui sont évidemment des perles, bon, Mbappé évidemment. Mais moi, Giroud évidemment qu'il faut saluer, mais je salue aussi le gardien.
Loris,
parce que il sort pas la première occasion polonaise. Elle rentre dans le but. C'est un autre match qui commence.
Vous avez oublié juste le magicien. Il s'appelle Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il a une équipe de avec 12 000 blessés. Alors, et il sort l'équipe de.
Il y a un grand.
Bravo, hein.
C'est un
vous
grand
oubliez toujours les meilleurs, c'est ça. Vous n'avez pas de cœur, j'ai bien compris. Vous êtes plus fort.
Non, vous essayez de me rattraper. parce que, voilà, oui. On a un capitaine qui est très critiqué parfois sur un certain nombre de radio, quoi, oui. Écoute, sur des radios périphériques, tous les commentateurs, etc., mais qui est solide et qui ne se laisse pas impressionner. C'est ça
cette équipe de pleutres, comme dirait Sandrine Rousseau, elle nous fait plaisir. Et nous, on est contents. Bravo l'équipe de France. Passons à l'Iran. C'est peut-être un tournant.
Ça esquive.
Ah non, vous n'allez pas dire que c'est des pleutres, quand
pas
même.
Pas du tout. Ça esquive pas, parce que je sais qu'il y a eu le débat.
Ouais.
Il fallait peut-être qu'on réfléchisse avant sur le fait de le faire au Qatar ou non.
Ouais.
Ça esquive pas ce qui s'est passé avant, les choix qui ont été faits. Mais c'est vrai que le football a cette magie, et il faut le reconnaître. C'est le seul sport qui procure autant d'émotions sur la planète.
L'Iran, et c'est peut-être un tournant en Iran, on en parlait déjà hier. Et Julien, je voulais vous saluer parce que je sais que chaque week-end, vous me dites depuis maintenant 2 mois et demi, il faut qu'on parle de l'Iran et il faut traiter ce sujet-là. Fruit d'un combat héroïque du peuple iranien après la mort de Mahsa Amini le 16 septembre, la police des mœurs a donc été abolie. Cette même police qui l'avait arrêtée pour ne pas avoir porté son voile correctement, 3 jours plus tard, on connaît l'histoire, son décès était annoncé, le régime des mollahs recule. On voit cela avec Kinson et on en parle juste après.
En Iran, face à un mouvement de contestation historique qui perdure, une annonce inattendue envers les manifestants. Celle du procureur général, l'équivalent du ministre de la Justice.
La police des mœurs a été abolie par ceux qui l'ont créée.
Des propos qui vont dans le même sens que ceux du chef d'État iranien.
Les fondements républicains et islamiques de l'Iran sont ancrés dans la Constitution, mais il existe des méthodes de mise en œuvre de la Constitution qui peuvent être infléchies.
L'unité a commencé ses premières patrouilles en 2006. Son rôle est de répandre la culture de la décence et du hijab. Cette police des mœurs a interpellé le 13 septembre dernier Mahsa Amini, accusé de ne pas respecter le code vestimentaire strict. Le décès de la jeune femme de 22 ans a déclenché une vague de manifestations dans le pays. Mais la fin de la police des mœurs ne signifie pas la fin du port du voile obligatoire. Dans les rues, plus qu'une réforme, des manifestants appellent à la révolution et réclament la fin du régime de la République islamique.
Julien Drey, quel regard vous portez sur cette abolition? Est-ce que c'est un premier pas vers la fin de ce régime?
C'est une première fissure à l'intérieur du régime, on la voyait venir. On savait, pour ceux qui sont des observateurs, qui sont aux côtés du combat du peuple iranien, qu'il y avait des premiers signes qui montraient que les choses ne se passaient pas aussi facilement pour le pouvoir en place. Mm-hmm. C'est un signe important parce qu'il va conforter la contestation. Il ne va pas l'arrêter, il va la conforter. Il va, et c'est toujours comme ça les processus, je dirais, révolutionnaires, entre guillemets, ce qu'on appelait dans le temps la théorie de la révolution permanente. C'est-à-dire la transcroissance du processus qui part d'une petite chose et qui va monter, monter. Là, vous allez avoir, vous avez d'abord une mobilisation qui est exceptionnelle de la jeunesse. Et il ne faut pas oublier que dans la jeunesse, il y a aussi les enfants des ayatollahs. Et que c'est aussi un des problèmes qui est posé pour les ayatollahs et pour les, parce que à un moment donné, on dit il faut tirer, mais ça veut dire tirer aussi sur nos propres enfants.
Il y a une fracture générationnelle, bien sûr.
Et ça a joué beaucoup dans les hésitations qu'il y a eu lieu ces dernières semaines, avec des passes d'Aram qui voulaient tirer, le général notamment des passes d'Aram, et puis le pouvoir qui commençait à se dire où on va. Voilà. Donc il faut maintenant premièrement être aux côtés. Évidemment, il ne faut pas relâcher la pression d'isolement des ayatollahs, de ne pas commencer à essayer de tergiverser. Il faut être aux côtés du peuple iranien, mais je crois qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, dès lundi, il y a des grandes manifestations qui sont appelées. Et le signe qui a fait basculer les choses aussi, c'est que pour la première fois, dans les usines, et notamment les camionneurs iraniens, sont rentrés en lutte depuis 3 jours.
Dans le sang et les larmes, cette contestation, officiellement plus de 300 morts en 2 mois et demi, mais selon les ONG, on est à 450 et même des enfants ont été tués, Geoffroy Lejeune.
Moi, ce qui me fascine depuis le début dans cette révolution, dans ce qu'on peut appeler un début de révolution, c'est de voir à la fois la fermeté, la violence extrême de ce régime qui veut se maintenir et en même temps la profondeur des racines de la contestation dans la population. J'ai lu notamment des reportages sur place et Régis Le Sommier qui est allé là-bas m'a raconté et je comprenais, si vous voulez, que non seulement il y avait les enfants des ayatollahs dans la contestation, mais aussi les petits-enfants des gens qui avaient fait la révolution en 79, qui étaient maintenant passés contre les mollahs. Donc en fait, on voyait un affrontement dont moi, ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai pensé que ça ne pouvait finir que dans le sang. Ça avait d'ailleurs commencé dans le sang, de manière assez violente. Et en fait, quand on essaie d'interpréter l'abolition de la police des mœurs, en général, un régime aussi violent que celui, aussi dur que celui des mollahs, ne recule pas. Il y a en effet des failles et il finit par s'effondrer. C'est comme l'URSS. Quand apparaissent les premières failles, en fait, on a enclenché le début de quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va s'arrêter. Je sais pas du tout comment ça finira, mais j'ai le sentiment que de loin, on assiste à l'effondrement d'un régime qui, en fait, ne tenait plus sur grand-chose.
En un mot, Julien Drey.
Non, je pense que le régime est lézardé. Alors, il faut pas aller trop vite. Il a encore des ressources, y compris, malheureusement, les ressources répressives. Mais il y a par rapport aux autres processus de contestation qu'il y a eu en Iran, il y a d'abord toutes les minorités. D'habitude, vous aviez la minorité kurde d'un côté, les autres. Mais là, l'unité iranienne qui est faite de toutes ces populations est en mouvement. Mais il faut saluer aussi quand même le combat des Kurdes iraniens, parce qu'ils ont été bombardés régulièrement depuis 6 semaines. Ils ont perdu des dizaines et des dizaines. Voilà. Et moi, vous savez, l'attachement que j'ai à l'égard du peuple kurde, qui est un peuple martyr sur la planète, et qui est quand même là, en première ligne.
Et je le répéterai jamais assez, c'est vous, évidemment, qui le
dites. Oh, c'est pas moi, c'est mes amis.
Non, mais vous
le
dites régulièrement, ils sont contre ce sujet, et d'ailleurs, vous aviez raison.
Parce que moi, je suis mobilisé depuis des années aux côtés des Kurdes, que ce soit en Syrie, que ce soit en Iran ou en Irak. Et je pense que ce peuple est un des peuples martyrs sur la planète, je vous l'ai dit, qui a souvent été une monnaie d'échange des grandes puissances.
Bon, autre sujet, petite parenthèse, ça réagit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Merci de parler pour vous, pour le foot, car il n'y a pas 70 millions de Français heureux. Perso, j'en ai rien à faire des Bleus, je n'aime pas le foot, et puis ils gagnent plus que vous ne gagnez, avec un peu de modération, s'il vous plaît. On peut être heureux, oh là là, c'est pas possible.
Il y a toujours...
Emmanuel Macron, tiens, Emmanuel Macron, alors peut-être qu'il a vu juste sur l'équipe de France, je suis pas sûr que sur la question migratoire, on puisse dire de même. En tous les cas, il fait tomber le masque dans cet entretien aux Parisiens, c'est très intéressant ce qu'il dit. Bah si, il a une vision. Voilà ce qu'il dit. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays et on a toujours eu besoin pour notre économie. Aujourd'hui, soyons lucides. Est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration? Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. Est-ce que la France est une terre d'immigration? Est-ce que c'est l'ADN de la France, Geoffroy Lejeune?
Ben non. Non, c'est faux en fait. C'est un postulat de départ qui est faux. En économie, quand on dit que le postulat est faux, tout le raisonnement derrière va être faux. C'est pareil quand on parle d'immigration. En fait, c'est faux. Ça a été faux pendant à peu près 1500 ans et c'est devenu vrai ces 150 dernières années. Ça, oui. Très récemment, c'est vrai. Mais dire que c'est notre ADN, que c'est l'identité de la France, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a des pays, les États-Unis par exemple, qui se sont constitués avec des apports de population notamment venus d'Europe. Et donc là, on peut dire que c'est un pays dont l'ADN est l'immigration et ils ont inventé leur modèle d'intégration, etc. et ils ont inventé aussi leur communautarisme en quelque sorte. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est même l'inverse. Nous, c'est quand on a eu des vagues d'immigration ces deux derniers siècles, on a inventé le modèle d'assimilation à la française, qui est un modèle formidable qui permet justement d'intégrer à la population des gens qui viennent d'ailleurs et de les faire participer à notre destin en leur offrant notre culture. Et eux, ils épousent notre culture et ça fait des Français. Et donc, ils citent d'ailleurs les Polonais, les Italiens. C'est le grand argument des immigrationnistes de dire « Regardez, on a eu des Polonais, les gens les aimaient pas et finalement, ça s'est très bien passé. » Ils se sont assimilés. Beaucoup, d'ailleurs, sont repartis. Et ceux qui sont restés se sont assimilés. Idem avec les Italiens, idem avec les Espagnols. Et on a une immigration maintenant extra-européenne depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, dont il parle également dans cet entretien, qui ne s'est pas... Je parle globalement, évidemment, des gens qui sont assimilés, heureusement, fort heureusement, qui ne s'est globalement pas assimilé et qui est beaucoup plus importante qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de parler de 250 000 personnes par an. Les Polonais, les Italiens, c'était pas du tout la même chose. Ça n'avait rien à voir. Et pour terminer sur ce qui m'a choqué, moi, dans cet entretien, c'est que Emmanuel Macron, en matière d'immigration, porte sur ses épaules un lourd échec. Je pèse mes mots. Il a échoué en la matière. Il a fait croire à certains moments qu'il avait la volonté de lutter contre l'immigration illégale, de faire des lois, d'être plus dur et en même temps plus ferme, etc. À la fin, il n'a absolument pas inversé le cours de l'histoire. Les flux sont exactement les mêmes, voire plus importants. Cette année, ça va être encore plus important que les années précédentes. Et au lieu de reconnaître cet échec et d'avouer qu'il n'a pas réussi à endiguer ce phénomène qui le dépasse complètement, il nous explique qu'en fait c'est une bonne chose et que parce qu'on en a besoin sur le plan économique, c'est formidable. C'est une logique économique assez délétère en réalité, parce que ça fait des étrangers qui veulent venir en France et qui essayent d'y avoir un destin, de la pure main d'œuvre économique, voire des esclaves.
L'ADN de la France, l'immigration, oui ou non, Julien Drey?
Oui, la France a toujours été dans l'histoire une terre d'immigration. Et contrairement à ce que dit mon interlocuteur Geoffroy, quand on regarde l'histoire, moi je veux bien qu'on me dise les racines judéo-chrétiennes, d'ailleurs en général c'est plutôt les racines chrétiennes de la France, parce que les judéos là-dedans, ils n'ont pas pesé grand-chose. Y compris ces racines chrétiennes, elles ont été différenciées. Elles ont été différenciées avec toutes ces provinces qui n'étaient pas d'abord des provinces françaises, hein, et qui ne parlaient même pas la même langue. Voilà, donc c'est une longue histoire d'assimilation qui s'est mise en mouvement avec une refondation de notre identité à partir de la Révolution française, puisque la France ne devient plus un pays de race, mais d'abord un pays de valeurs à travers la Révolution française.
De donc culture, la question de langue surtout.
Et de valeurs, c'est ça la Révolution française. C'est d'abord c'est un triptyque qui devient un drapeau et qui devient identité. On rappelle que le drapeau tricolore, c'est d'abord et avant tout la Révolution française qui le porte.
Mais ça a pas commencé
et avec comme la Marseillaise, je veux dire, qui sont les symboles, comme le triptyque que vous voyez sur toutes les municipalités que vous revendiquez et qui d'ailleurs fait notre fierté dans le monde entier.
Oui, mais d'accord, mais c'est pas que ça la France.
Dans la refondation républicaine, c'est ça qui l'emporte. À partir du 89, c'est ça qui fait une nouvelle identité.
Ah bah pour vous, pas pour moi, pardon. Bah
d'accord, mais moi, c'est comme ça que je le vois, et c'est ça qui me fait aimer aussi profondément la France, et l'a fait aimer à des gens qui, au départ, ne parlaient même pas le français. Je pense notamment dans la résistance à des groupes comme le groupe Manouchian ou d'autres.
Les milliers de touristes chinois qui vont à Versailles, ils vont pas admirer la République. Non,
d'accord, mais les milliers, ils sont touristes, ils sont pas immigrés.
La France, ça veut pas.
Mais quand ils aiment, moi aussi, je veux dire, j'ai de l'admiration pour tout ce qui a été l'histoire de France. Je la connais un petit peu, pas forcément totalement, mais je sais qu'il y a un tournant qui refonde une identité, qui redonne un sens à notre pays, qui fait que des millions de gens sur toute la planète, se revendiquent d'une certaine identité. C'est pas un hasard d'ailleurs si, quand les peuples se libèrent, la première chose à laquelle ils pensent, c'est quand même à la Révolution française et à ce qu'elle représente. Voilà. Alors après, sur cette immigration, moi je suis pas anti-immigration, je suis contre une immigration qui est mal organisée et qui est mal prise en charge. Et ce que nous avons là, et là-dessus Geoffroy a raison, nous avons un gouvernement qui a fait du en même temps. C'est-à-dire un petit clin d'œil ici pour ceux qui sont contre, un petit clin d'œil ici pour ceux qui sont pour, et on n'a plus de cohérence. Voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux. Et donc il y a deux débats, je finis là-dessus. Il y a un débat sur l'identité de la France, ce qu'elle est, etc. Bon, et puis il y a un débat sur le moment particulier dans lequel on est. Et dans ce moment particulier, il y a une très mauvaise gestion des flux migratoires qui fait, et je suis d'accord, qu'on donne le sentiment qu'on va aller chercher de la main-d'œuvre parce qu'on n'est pas capable, nous-mêmes, de bien payer des salaires aux salariés français qui voudraient, je dirais, faire ces travaux-là.
On parlera d'Éric Zemmour dans un instant, puisqu'il a célébré les 1 an de son parti, mais il a répondu ce dimanche à Emmanuel Macron dans son meeting.
Il répond comme il a répondu sur la question de la manière dont il a vu ce qui s'est passé en 1940. D'après moi, il s'est trompé.
Lisons.
Je vous rappelle.
Lisons ensemble.
Je vous rappelle que monsieur Zemmour a fait une grave faute. Je ne lui pardonnerai, moi personnellement, il le sait, je lui ai dit, je ne lui pardonnerai jamais la faute qu'il a faite sur les Juifs. étrangers qui auraient été soi-disant protégés par Pétain. Et quand je lui ai rappelé ce qui s'était passé avec les Juifs d'Algérie et l'abolition du décret Crémieux en Algérie en 1940, alors qu'il n'y a pas un seul nazi encore, il était obligé de me dire « Ah, je me souviens pas de ça ».
Il le sait très bien, ça, c'est sa famille.
Ben oui, mais justement, il a nié sa propre histoire. Non, c'est ça mon étonnement.
Dommage de faire ce patrioté.
Mais oui, c'est question.
Mais vous voulez peut-être répondre à ça. Parce que moi, je ne vais pas répondre. Allez-y, Geoffroy.
Honnêtement, sur Zemmour, le débat sur Pétain, etc., il a été tranché par la justice. Je vous rappelle qu'il a été relaxé. Par ailleurs.
D'accord, mais il s'est trompé quand même. Je m'excuse.
Faites un débat avec Zemmour.
Non, Geoffroy. Honnêtement, parce que vous pouvez retrouver les images du débat, du premier débat qu'on a eu ensemble il y a quelques années, ici, sur cette chaîne. Et vous retrouverez ces images. Je lui fais remarquer qu'il y a des camps de déportation, de concentration en Algérie. Il me dit non, c'est pas vrai.
La difficulté, Julien Drey, vous le savez, c'est que Éric Zemmour n'est pas là et que Geoffroy Lejeune n'est pas là pour faire l'avocat d'Éric Zemmour.
Moi, je ne partage pas votre avis. Mais vous n'êtes pas là non plus pour faire l'avocat d'Éric Zemmour.
Mais justement, c'est pour ça que je veux qu'on réagisse à ce qu'il a dit aujourd'hui. Non, monsieur Macron.
Si vous voulez, quand quelqu'un fait une faute, moi, si j'avais fait cette faute-là, je peux vous dire, je me la trimballerais dans tous les débats.
Mais vous la rappelez régulièrement. Allez-y, Geoffroy. Mais
d'un mot sur la question de Zemmour, parce que comme ça, on passera à autre chose. Moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Le vrai sujet de son bouquin, parce que c'est dans un bouquin à l'époque qu'il écrit ça, c'est de dire que, en condamnant Vichy, on ne comprend pas que Pétain a voulu faire une différence entre juifs étrangers et juifs français. Et donc, du coup, les juifs français ont été mieux traités sous l'occupation que les juifs étrangers. C'est ce que dit Éric Zemmour. Et donc, il essaye, lui, son sujet,
ça lui permet ainsi de masquer le fait que le régime de Pétain était antisémite.
Mais non, justement.
C'est ça qu'il essaye de cacher.
Moi, je ne pense pas que le régime de Pétain n'était pas antisémite. Et par ailleurs, je pense que Zemmour ne pense pas.
Vous pensez que le régime de Pétain était antisémite ou non?
Oui. Mais je pense que Zemmour le sait.
Mais non, il ne pense pas ça.
Je promets que c'est bon, peu importe.
En tous les cas, on sait.
Je pense qu'en disant ça, on porte atteinte. Mais non, justement, Geoffroy, je m'excuse de vous le dire. C'est sérieux, cette petite... Non, mais ne traitez pas ces questions-là.
Ah non, pas du tout, c'est juste que ça serait sérieux, très intéressant d'avoir l'intéressé, Julien.
Mais on peut l'avoir, mais on peut l'avoir sans lui. C'est un personnage public. Mais on est déjà...
Mais attends, il faut qu'on ait l'autre débat. Je pense qu'il a été antisémite, mais il a été plus antisémite avec les juifs étrangers qu'avec les juifs français.
Oui, mais en fait, c'est plus... La démarche était une démarche antisémite.
Mais bref, c'est honnêtement une querelle
d'histoire. Allez, s'il vous plaît.
Quand les policiers français font la rafle du Veldiz, ils collaborent avec le régime de Pétain, ils savent ce qu'ils font. C'est pas tous les policiers,
sur le sujet.
Il y a plein de policiers.
Voilà ce qu'il a dit ce dimanche, s'il vous plaît. Non, monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. Les immigrés européens du 19e et 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. Et vous parliez justement de l'assimilation. Est-ce que l'immigration d'aujourd'hui est différente de celle d'hier? Parce que justement, cette question d'assimilation, elle n'est plus efficace, efficiente avec cette nouvelle immigration.
Mais alors, oui, absolument. En fait, on a intégré... assimilés des petites proportions d'étrangers pendant des décennies. Et un jour, on a changé notre immigration a changé de nature. C'est-à-dire que c'est pas une question de degré, c'est même pas une question de nombre. C'est que pendant longtemps, on avait une immigration de travail, de voisins qui venaient, qui repartaient, etc. Et ceux qui restaient s'assimilaient. Un jour, on a eu une immigration de peuplement. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce sont des voisins un peu plus lointains, mais des voisins aussi, puisqu'ils viennent du Maghreb ou de l'Afrique du Nord. Et ils viennent pour s'installer, et ils viennent en général pas du tout, ni pour travailler, ni pour, enfin, la grande majorité. Mais si, 90 000 personnes par an au groupe familial, c'est énorme, c'est colossal. C'est pour ça que je fais exprès d'insister sur ce gros morceau de l'immigration. Ce sont des gens qui viennent pour s'installer, et ils viennent parce que notre système les y encourage, le système d'aide sociale, etc. Donc c'est ce que, Gérard Collomb appelait le tourisme social. On est aujourd'hui victime de ça. Nos propres règles ont créé cet appel d'air. Et donc, on a une immigration qui ne vient pas du tout pour partager un destin commun avec la France. Et c'est un phénomène massif qui dure depuis 1974, le regroupement familial, et qui s'intensifie ces dernières années. Et nous sommes en train de devenir aujourd'hui l'hôtel... De l'Afrique. Vient qui veut. On l'a vu avec le chaîne Viking. Ceux qui décident de tenter la traversée, s'ils réussissent à en réchapper, parce qu'ils peuvent parfois y laisser leur peau, ceux qui réussissent à en réchapper viennent et on ne peut rien faire pour les en empêcher. Aujourd'hui, sur les 234 migrants de le chaîne Viking, il y en a deux qui sont repartis au Mali. Il y en a deux. Deux. Les autres sont tous en France, en Europe, où ils veulent. C'est ça le problème. C'est ça que dénonce Zemmour. Et par ailleurs, je réponds juste deux choses sur
ce que vous avez dit. Vous voulez pas le défendre, mais vous le défendez quand même.
Ah, mais sur le fond, sur l'immigration, aucun problème.
Vous êtes plutôt de son côté.
C'est un scoop. Sur l'immigration, c'est un scoop. Ensuite, les deux choses. Vous, comme tous les gens de gauche.
Mais vous n'oubliez pas une chose, si vous me permettez, Geoffroy, dans votre démonstration. Vous avez longtemps, ces derniers mois, considéré que vous aviez une forme d'hégémonie. culturelle sur le pays, sur ces questions-là. Pas c'est-à-dire que les choses s'étaient renversées.
J'aimerais bien, mais pas du tout.
C'était renversé. J'ai entendu Gilles William le dire. Ça y est, nous avons repris les choses.
Ouais, mais...
Bon, mais je constate quand même que dans le pays, c'est pas aussi simple que ça. Parce que dans les grandes élections, quand vous défendez ces thèses-là, vous avez... ça marche pas.
Mais je suis d'accord avec vous, mais attendez, et ça me désole d'ailleurs. Je pense que je.
Non, oui, mais quand même, il faut en tirer des conséquences.
Oui, mais j'essaie.
Vous voyez, quand j'étais jeune trotskiste, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on était minoritaire et qu'il fallait quand même changer sur un certain nombre de choses.
Non, mais c'est pas à vous, Julien, que je vais apprendre que quand il y a 70% des Français qui s'estiment inquiets du grand remplacement, il y a une victoire. Non, attendez, il y a une victoire intellectuelle. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont convaincus du fait que c'est un problème. Mais même vous, d'ailleurs, vous êtes capable de le dire. Donc, il y a des gens de droite et de gauche qui sont capables de le dire. Après, ça fait pas une solution politique. Mais moi, je m'en fous. C'est pas mon métier. Je fais pas de politique.
Non, mais d'accord. Mais bon, si vous faites de la politique, comme nous tous, d'ailleurs.
Mais vous
avez votre avis sur la gestion de la société. Sinon,
ça, c'est un micro débat à l'intérieur du débat. Moi, ce que je voulais juste vous objecter par rapport à votre démonstration, c'est que comme tous les gens de gauche, vous faites dater le début de la France à 1789.
Non, j'ai pas dit ça. Alors, j'ai dit la France. Regardez bien les termes que j'ai.
Oui, bien sûr.
À refonder. Le prenez pas à la légère.
Oui, mais c'est
à refonder son identité. Oui. Je considère cela à partir de la Révolution française.
Et ben moi, je vous dis non.
Voilà. Ben oui, mais là, il y a un désaccord, oui, évidemment.
Ben, moi, je vous
dis donc
non.
Une approche différente sur le rôle de la République et ce qu'elle représente.
Parce que le problème,
ça, je comprends bien.
Mais tout le vice de votre. Pardon, tout le.
C'est pas un vice, excusez-moi.
Le vice de raisonnement, c'est un vice tout court, c'est un vice. Le vice du raisonnement de la gauche, il est là. C'est-à-dire
mais
que.
Mais non, il n'est pas là, parce que pendant des années, pendant des siècles, on a considéré, malgré tout, c'est vous qui maintenant essayez de remettre en cause le rôle de la Révolution française.
Mais
ce qu'elle a porté, les Lumières.
Oui, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est là que vous datez la refondation de
c'est une autre histoire qui commence.
Mais les valeurs portées par la Révolution et les Lumières, en réalité, c'est ça que vous dites, les Lumières sont universelles. Donc elles sont partagées et partageables par
tout
le monde.
Mais c'est la France qui la première porte ces Lumières-là.
J'entends bien. Mais à partir du moment où c'est partageable par n'importe qui sur la planète, comme vous l'avez dit.
Toutes les royautés autour n'ont qu'une idée en tête, c'est de tuer la Révolution française. C'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres qui vont produire par la suite Napoléon.
Et à partir du moment où vous dites que le nouvel idéal français est universel et qui peut être partagé par n'importe qui sur la planète, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça veut dire, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous considérez que quiconque partage ses valeurs peut décider,
ça s'appelle le raisonnement par. J'ai dit, les valeurs de la France deviennent effectivement, à partir du moment où elles sont défendues, des valeurs universelles. Ça veut dire que beaucoup nous envient ce que nous représentons et que nous avons à partir de là. C'est ça qui fait que. Pendant la résistance, pendant les heures les plus sombres de la France. Mais la France, elle est là. Elle est là, pas simplement pour les questions territoriales. Elle est là parce que c'est une idée, la France. C'est une idée qui suscite une telle ferveur, une telle mobilisation.
Allez,
c'est une idée, c'est un peuple, c'est une culture,
c'est un territoire. D'abord,
ce sont des paysages. Bah ouais,
sinon, vous n'avez pas Mamouchian. Sinon, vous n'avez pas tous ces gens qui sont venus construire la France. Alors après, vous me dites qu'il n'y a pas d'assimilation.
Non, mais vous allez me dire après la pub, s'il vous plaît. Non, Julien.
30 secondes.
Non, malheureusement. Non, mais parce qu'on déborde déjà depuis plus d'une minute. Non, mais Julien, ça fait plus d'une minute qu'on est en déborde. À la fin d'un discours. Tiens, pour les deux, on va terminer là-dessus. Si vous faites un discours politique, Julien Drey, à la fin de votre discours, vous dites vive la France et vive la République.
Moi, je commence par dire vive la République.
Mais vous dites vive la France.
Mais je dis vive la France, qu'est-ce que vous voulez me faire dire?
Mais non, pas du tout.
Non, ça, c'est assez énervant.
Mais Julien Drey, ça n'a rien à voir.
Non, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire là?
Parce que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans ses discours, il dit vive la République, il dit pas vive la France.
Des dizaines de fois.
Mais parfois, il ne le dit
pas. Je l'ai entendu des dizaines de fois.
Pourquoi vous m'agressez, Julien Drey? Ça n'a rien à voir. C'est juste de faire voir.
On peut faire. Écoutez, moi, j'ai des ancêtres.
Oui.
D'accord? Qui sont battus pour la France, alors que sur le fond, la France, elle faisait pas grand-chose pour eux, parce qu'ils étaient dans des camps de concentration. D'accord? Ils sont battus pour ce pays. Vous n'avez pas le monopole de la France.
C'est une question que je posais. Vous dites quoi? Vive la France ou vive la République?
Je peux dire les deux, mais je dis surtout vive la France.
Je dis les deux, parce que la France, pour moi, c'est aussi la République. C'est aussi un sentiment partagé par les uns et les autres autour de valeurs communes. Pas simplement de la géographie.
La publicité, on revient dans un instant. Vous êtes méchant avec moi, Julien Drey.
Non, je sais pas, c'est vous qui avez commencé à me chercher.
Oh, pas du tout.
En me disant, vous ne voulez pas dire vive la France.
Mais je sais comment les procès. Je vous pose la question parce que ça m'a fait penser à Jean-Luc Mélenchon.
Mais non, mais parce que ça, c'est un procès en permanence qu'on nous fait, nous, les Républicains, c'est qu'on est des anti-français.
Non, mais la question d'Eliott, je fais encore le modérateur ici.
Oui, bah non, mais.
Il l'a posé à des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle et qui ne voulait pas reconnaître que Mélenchon ne disait plus vive la France.
C'est pas aux porte-parole de Mélenchon qui l'a posé, c'est à moi.
Mais parce que.
Pas pareil. Avec ma modeste personne, parce
que j'ai besoin d'eux.
Il va encore y avoir 50 internautes qui vont venir m'expliquer que je comprends rien.
Non, mettez pas Julien Drey sur les réseaux sociaux. On revient après la publicité. Est-ce que je vous. Non, surtout. La publicité. On parlera de Nicolas Dupont-Aignan et puis on parlera d'Éric Zemmour qui a fêté sa première année. Reconquête la première année. À tout de suite. Ça se dispute la deuxième mi-temps avec Julien Drey, Geoffroy Lejeune. Le point sur l'information, et vous allez entendre Nicolas Dupont-Aignan dans un instant, qui était l'invité du Grand Rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Il est revenu sur la question migratoire. Pour lui, le fait que les flux migratoires ne soient pas contrôlés, cette masse migratoire qui arrive, c'est une bombe à retardement. Ce sont les mots de Nicolas Dupont-Aignan, et vous allez réagir juste après le point sur l'info avec Mathieu Devez.
L'hôpital de Versailles, visé par une cyberattaque, elle a eu lieu hier soir et perturbe toujours fortement l'activité du centre hospitalier situé dans les Yvelines. L'accueil des patients est par conséquent limité, le système informatique a été coupé et une cellule de crise a été ouverte. Un nouveau plan de lutte pour lutter contre les trafics de tabac. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dévoilera demain un plan de 3 ans. Parmi les mesures phares, le déploiement d'une dizaine de camionnettes équipées de scanners à rayon X, capables de passer au crible un véhicule en une minute. Selon les douanes, plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies cette année. On termine ce journal avec la joie des supporters français au Qatar. Les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale du Mondial. Une victoire 3-1 contre la Pologne. Le premier but est signé Olivier Giroud, son 52e avec la France. Le record de Thierry Henry est tombé et en deuxième mi-temps, place au festival de Kylian Mbappé. Une frappe soudaine dans la lucarne, 2-0 pour les Bleus. Et dans les arrêts de jeu, l'attaquant français nettoie une nouvelle fois la lucarne du gardien polonais. La Pologne sauve l'honneur avec ce pénalty transformé par Lewandowski. La France affrontera en quart l'Angleterre ou le Sénégal samedi à 20h.
Voilà pour le point sur l'information. Je rappelle que Mathieu Devez, qui a présenté le JT, il s'est trompé sur le pronostic de l'équipe de France. Il est mal. On va essayer de le voir après.
Il y a quelque chose contre Mathieu Devez.
Je l'adore, justement. Je l'adore, Mathieu. On revient sur notre question, la question migratoire. Pourquoi ? Et c'est tout un débat. Il était passionnant. La première partie était passionnante et c'est très intéressant de voir les deux visions de la France. Pourquoi on parle de l'immigration ? Parce qu'Emmanuel Macron a accordé une interview à nos confrères du Parisien. Il dit « La France a toujours été une terre d'immigration. Ça fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays et on a toujours eu besoin pour notre économie. » Écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, il est beaucoup plus dur sur ce qu'il se passe aujourd'hui, la question migratoire aujourd'hui.
Moi, je vois la réalité. Et comme tous les Français, c'est qu'Emmanuel Macron ne maîtrise rien. Et que l'immigration submerge la France, c'est tout. Et que cette immigration n'est pas bonne pour ceux qui arrivent, parce que ils espèrent dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc on ne leur offre pas le rêve de leur vie et ils seraient beaucoup plus heureux dans leur pays d'origine si on aidait ces pays et qu'on avait une vraie politique pour l'Afrique notamment. Et puis ils alimentent des tensions dans notre pays terribles. On ne se rend pas compte qu'on est en train, depuis des années, d'alimenter une bombe.
Une bombe
à retardement, oui, une bombe à retardement. Parce que moi, je ne me réjouis pas d'avoir des ghettos dans mon pays. Je n'ai pas envie de voir ça. Sans parler du problème financier, parce qu'on est quand même le seul pays au monde qui finance tout cela. Donc, c'est un coût exorbitant pour les finances publiques.
Est-ce qu'il vise juste, Nicolas Dupont-Aignan, sur cette bombe à retardement que peut être la vague migratoire?
Oui, moi, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'on a appris de la bouche de l'ancien préfet de police de Paris qu'à Paris, donc, un acte de délinquance sur deux était commis par un étranger. Et je rappelle ce chiffre dont on ne parle jamais assez, mais en France, un quart des prisonniers sont d'origine, enfin, sont pas d'origine d'ailleurs, sont étrangers. Voilà. Donc, ça veut dire que ceux qui sont d'origine étrangère sont, bien sûr, plus nombreux. C'est colossal, en fait, ce qui est en train de nous arriver. On a une société qui vit des crispations énormes. Ça nous coûte, en effet, il a raison de dire ce que ça nous coûte, parce que le coût de l'immigration, on a beaucoup de propagande sur le sujet, ça nous rapporte beaucoup, c'est génial parce qu'ils cotisent, etc. Ça nous coûte aussi énormément et en réalité, on est incapable de savoir. J'ajoute à ça le système de la fraude, qui est la fraude qui est colossale, entre 20 et 50 milliards selon les plus alarmistes et les plus optimistes sur le sujet. Bref, c'est un problème énorme qui touche quasiment tous les pans de l'organisation de la société. Et en fait, j'entends répondre par le président de la République qui est en charge de tout cela, que c'est formidable parce que on a des besoins de main-d'œuvre dans la restauration, et c'est d'ailleurs la philosophie qu'il avait essayé de nous vendre avec son projet de loi sur la régularisation des travailleurs.
Si on grossit le trait, Emmanuel Macron, il a une vision quoi, sans frontiériste en fait?
Il a une vision économiste et libéral. C'est-à-dire qu'en gros, il considère que les hommes sont des. Il est l'incarnation du anywhere. Vous savez, il y avait David Goodhart avait écrit un livre qui avait pas mal expliqué un peu avant, mais qui expliquait la crise des gilets jaunes entre les somewhere et les anywhere. Les somewhere, c'est les gens qui sont de quelque part. Les anywhere, c'est les gens qui sont de nulle part. Les anywhere sont en gros nos élites qui voyagent, qui ont des jobs à l'étranger, qui reviennent, qui partent, etc. Qui s'adaptent, qui ont les moyens de tout ça. En réalité, qui sont les gagnants de la mondialisation. Et les somewhere, c'est les gens qui peuvent pas, qui restent sur leur territoire qui sont bloqués. Et lui considère qu'en fait, on gagnerait à être tous des anywhere. Donc en fait, les hommes sont des êtres interchangeables en fonction des besoins du marché qui peuvent se déplacer à droite, à gauche. Et en fait, la notion, tout ce que je disais tout à l'heure sur la notion de culture, d'assimilation, etc., n'intervient pas. À partir du moment où vous avez un job, il expliquait, Emmanuel Macron expliquait quand il était ministre de l'économie, l'intégration des jeunes de banlieue par le fait que Uber se développait, c'était
formidable. Oui, l'ubérisation, et bien exactement, l'immigration ubérite.
Et donc forcément, ça allait, vu qu'on aurait un job, on n'offrait plus de délinquance, on n'irait plus tenir les murs des cités. Moi, je crois que c'est évidemment faux.
Julien Drey sur Nicolas Dupont-Aignan, qui parle justement de cette immigration, c'est une bombe à retardement. Selon
c'est
Nicolas
une crispation très forte qui, si elle n'est pas aujourd'hui prise en considération comme elle le doit, c'est-à-dire par la maîtrise, par la modification de nos dispositifs législatifs, va conduire à des tensions énormes dans la société française. Bon, ça on voit les choses monter, et ça serait stupide de ne pas s'en rendre compte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une partie de la gauche qui se trompe en ne prenant pas au sérieux le débat sur cette question-là, c'est-à-dire comment on arrive à mieux maîtriser les flux migratoires et comment on arrive à défendre une politique généreuse. Mmh. Il faut garder cette politique généreuse, mmh, et en même temps une politique ferme sur tout ce qui pose problème, soit pour la délinquance, soit parce que ils ne respectent pas les lois, et qu'ils viennent sans papier, etc. et tout. Donc il y a eu un dérapage ces dernières années, avec des discours très contradictoires, avec une législation de plus en plus complexe, et aussi avec une crise sociale qui a fait qu'on a laissé, quand même, je vous le rappelle, se concentrer les mêmes dans les mêmes endroits. Et que, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la classe politique, pour les responsables politiques, mais quand Nicolas Dupont-Aignan dit qu'il ne faut pas faire des ghettos, j'aurais aimé qu'il soit plus solidaire quand il était en Essonne de villes qui étaient des ghettos. Mmh. Voilà. Et Nicolas Dupont-Aignan, il préférait payer les impôts qu'on lui donnait comme maire plutôt que de perdre. Oui, le résultat, c'est que le député que j'étais, il va se retrouver avec des villes où il y avait tous les problèmes sociaux et des villes qui n'avaient aucune marge de manœuvre dans la maîtrise de leur peuplement. Et donc, si on avait mieux réparti les choses, on n'aurait pas ces ghettos qui sont devenus, effectivement, pour les populations qui y vivent d'ailleurs, les premières, qui y vivent évidemment des ghettos désignés à la vindicte populaire. Et puis, si vous me permettez, une remarque. Moi, je suis pour maîtriser les flux migratoires, mais je ne suis pas pour désigner les immigrés à la vindicte populaire. Il y a beaucoup, beaucoup, y compris quand je viens dans cette maison, il y a des jeunes qui sont issus d'immigration et qui sont formidables, et qui ne demandent rien, qui travaillent, qui sont sérieux, et qui veulent pour la plupart devenir des jeunes Françaises et des jeunes Français, et qui me disent d'ailleurs, arrêtez, c'est pas parce qu'il y a une minorité qui, excusez-moi l'expression, déconne, et avec lesquelles nous on n'a rien à voir, et qu'on voudrait justement voir sanctionner, que nous, on peut être assimilé à la même chose.
Mais heureusement, enfin, je veux dire, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des immigrés qui se comportent bien.
Je
ne
suis en train de rien vous expliquer, je vous dis mon sentiment. Non, mais j'ai le droit de le dire. Quand même.
Dieu merci, heureusement que
laissez Dieu être tranquille.
Mais, non, mais pardon, on a encore le droit d'utiliser. C'est pas encore interdit.
Non, mais c'est pas Dieu qui est responsable de ça. Non,
mais Dieu merci, vous m'accorderez que c'est une expression dans la langue française.
Mais c'était une. Oh, purée, si on ne peut plus plaisanter.
C'est une expression avant la République.
Ouais, c'est ça.
Avant la République.
1789.
Pourquoi vous êtes aussi susceptible?
Non, c'est marrant parce que je dis Dieu merci très innocemment et je me fais reprendre. C'est intéressant. Donc, non, on aura ce débat sur la laïcité une autre fois si vous voulez. Non, moi, pardon.
Ça n'a rien à voir avec la croyance.
Oui, je sais. Mais là, on est dans un espace vision public. Heureusement que des immigrés sont très heureux en France, aiment la France, se comportent bien. Et d'ailleurs, c'est le fruit de l'assimilation, parce que ceux dont vous parlez.
Donc ça veut dire quand même que l'assimilation, elle marche quand même.
Mais parfois elle marche,
Elle marche quand on regarde les choses.
Elle marche.
Là où vous avez raison, c'est que les vagues qu'on a eues ces dernières années sont trop fortes pour que l'assimilation marche comme elle a marché auparavant. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut mieux contrôler les flux migratoires. Mais je voulais montrer quand même que l'assimilation à la française, elle garde encore quelque chose.
Non, attendez,
et quand vous regardez nos équipes dans le sport,
mais partout
dans le sport,
mais bien sûr.
Je pense que dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises françaises aujourd'hui, il y avait toute une génération qui est en train de réussir et qui donne même la leçon à tout le monde.
Allez, je crois.
Ça, c'est formidable.
Un dernier mot et ensuite on parle d'Éric Zemmour.
Avec vous là-dessus. Je dis juste qu'aujourd'hui, cette assimilation, elle est miraculeuse parce qu'elle n'est permise ni par l'école ou elle ne s'exerce pas par l'école.
Vous avez raison.
Bah oui, bah c'est ça le problème. Pendant très longtemps, le système fonctionnait comme ça.
Ça, vous avez raison. Ça veut dire que le fondement assimilationniste de la France reste encore en ressort, mais qui sont aujourd'hui mis en péril parce que les instruments de cette assimilation, notamment l'éducation et après les peuplements avec les ghettos, etc., aujourd'hui les mettent en péril.
Justement, pour répondre sur votre question de ghetto, si un maire de droite aujourd'hui,
et parce que nos procédures de naturalisation par ailleurs sont parfois trop longues.
Un maire de droite aujourd'hui, son métier, c'est d'éviter, c'est ce que ses administrés lui demandent, que sa ville devienne un ghetto. Je comprends très bien ce que Dupont-Aignan.
Parce que ça veut dire que c'est chacun pour soi.
Et la philosophie. Attendez, parce que
donc chacun. Alors,
parce que la gauche.
Vous allez avoir. Vous savez ce que vous allez faire? Ça veut dire vous allez avoir ce qu'on appelle la France tissu peau de léopard.
Mais ce que vous proposez. Voilà. En échange, c'est de répartir la misère. Vous l'avez expliqué quasiment
non,
comme ça.
Ce que je propose, c'est qu'il y ait des logements sociaux aussi dans les villes riches. En fait, que ça soit mieux réparti. Parce que
faut
sinon, assumer, si on met tous les logements sociaux, comment ça assumer ?
Non,
mais j'assume complètement qu'il faut répartir les logements sociaux.
Sauf que des gens comme.
Et je peux même vous dire, on s'est trompé, nous, la gauche. Parce qu'on a cru à un moment donné qu'en mettant en place ce qu'on appelait la péréquation, c'est-à-dire qu'on allait pénaliser les villes qui ne voulaient pas, ça allait marcher, et on s'est rendu compte que les villes, elles préfèrent payer plutôt que d'accueillir.
Et je les comprends.
Mais non, mais vous ne comprenez pas. Non, mais si vous êtes tout, si vous faites un peu de politique, vous pouvez me dire, excusez-moi, vous pouvez pas me dire, je les comprends. Parce que ça, c'est là. Si vous les comprenez, alors ça veut dire qu'on s'en sortira jamais.
Mais vous plaisantez ?
Ça veut dire qu'on ne s'en sortira jamais. Parce que vous allez avoir des ghettos, mais dans ces ghettos, vous allez avoir de la violence,
mais
vous allez avoir des bandes, et qu'on n'arrivera jamais à les casser.
Mais non, l'immigration, mais
donc c'est une fatalité.
Répondez,
Geoffroy. Macron et vous, vous êtes tous pareils. Vous vivez dans un monde où l'immigration est un phénomène inéluctable. Vous avez parlé tout à l'heure de générosité. La générosité française aujourd'hui, mais c'est même... 234 migrants qui arrivent à bord de l'Ocean Viking. On n'en renvoie que deux.
C'est pas
il y a 200 tentes devant le Conseil d'État de gens qui n'ont rien à faire là. Vous n'aurez jamais dû laisser rentrer. Et vous voulez qu'on se répartisse cette misère-là.
Moi, je ne répartis pas la misère.
Mais si, c'est
non,
ce que vous
non,
proposez.
Non, c'est pas ça. On ne se répartit pas la misère. C'est parce que, d'ailleurs, j'ai remarqué que Dupont-Aignan lui-même, Monsieur Dupont-Aignan l'a reconnu lui-même. Le premier combat, c'est d'empêcher qu'il y ait l'immigration. Mmh. Et pour empêcher qu'il y ait l'immigration, c'est d'avoir des phénomènes de coopération qui permettent
avec
que
les
populations
africains
restent sur leur terrain, sur leur dans leur territoire. Parce que la plupart de, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui viennent pas avec, à part plaisir. Voilà, c'est pas, il y a effectivement une minorité qui pense utiliser, etc. Mais il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils peuvent pas faire autrement, notamment dans les pays des Grands Lacs et où nous, nos multinationales, continue à corrompre ces États et pas leur permettre de se développer. Et il n'y a aucune démocratie. On accepte qu'il n'y ait aucune démocratie. C'est ça la réalité. Si on permettait à ces pays-là de se développer, on voit d'ailleurs maintenant quelques pays commencer à se développer, eh bien, il y aurait moins de migration. Et donc, ce n'est pas de la générosité, c'est pas en dire. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a une identité, que dans cette identité, il y a une part culturelle très importante, etc. Et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon.
Éric Zemmour. Éric Zemmour a fêté son avance. Mais c'était passionnant et c'est très intéressant. Et quand ça se passe comme ça, moi je vous laisse. Je vous laisse parler. J'écoute attentivement. Je suis le premier téléspectateur. Éric Zemmour a fêté ce dimanche la première année de reconquête. Son parti annoncé par le discours de Villepinte de celui donc d'aujourd'hui, du Palais des Sports de Paris. 4000 personnes étaient présentes aujourd'hui. Un parti qui revendique 130 000 adhérents en l'espace d'une année. Et voilà ce qu'il a dit. Ne soyez pas pessimistes que tous ceux qui prédisent notre mort se mettent bien une chose en tête, nous venons de naître. Éric Zemmour à la relance, vous y croyez ? Est-ce que ça peut durer ou pas ? Je crois le jeune. Après la reconquête, la renaissance. Ou la naissance.
Je ne saurais pas dire quelle est l'avenir politique de reconquête, mais c'est vrai que moi je faisais partie de ceux qui trouvaient... En fait, je l'ai observé monter jusqu'à un moment donné 18% dans les enquêtes d'opinion, donc je considérais que 7% c'était un échec cuisant à la présidentielle et tout. Après, j'ai un peu réfléchi, et c'est vrai que c'est un parti qui avait 6 mois d'existence sur un espace politique déjà un petit peu obstrué par la candidate Valérie Pécresse et puis Marine Le Pen surtout. Il a fait 7%, il est au-dessus du score, je crois, en cumulé d'ailleurs des Républicains et du Parti socialiste, c'est pas déshonorant du tout ce qui s'est passé. Maintenant, je pense qu'il y a une chose sur laquelle Zemmour doit s'appuyer s'il veut que son aventure politique continue. Il est le seul aujourd'hui à tenir le discours que veulent entendre tous les gens qui votent soit pour les Républicains, enfin une majorité des gens qui votent soit pour les Républicains, soit pour le Rassemblement National, soit pour lui. C'est-à-dire le discours de « mettons-nous ensemble pour gagner enfin contre la gauche ». Il faut se mettre dans la tête d'un électeur de droite qui a voté, qui a vu la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 et qui depuis n'a vécu que des défaites. Et aujourd'hui, il y a la moitié des sympathisants des Républicains qui veulent une alliance à droite et une très très grande majorité des sympathisants Rassemblement National qui le veulent. Et il est le seul à porter ce discours dans le débat public dans les partis de droite. Je pense que c'est son créneau aujourd'hui pour se frayer un chemin et essayer de rebondir. Et après, qu'est-ce que ça va donner ? Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Et après, pardon, j'ai terminé juste sur un truc. À l'origine, Éric Zemmour est un intellectuel, un polémiste, etc. Et il avait, pour moi, cette candidature, c'était une candidature de combat culturel avant tout. C'est même s'il ne pouvait pas gagner, il le faisait parce qu'il voulait imposer son thème. Moi, il me l'a expliqué comme ça 6 mois avant de se déclarer candidat. J'écrivais un livre sur lui et il me dit, c'est celui qui, il citait une phrase de Mitterrand qui était soufflée, je crois, par Jacques Pilan. C'est celui qui arrive à mettre son thème dans la tête des Français qui remporte l'élection. Et lui, il voulait le faire avec l'immigration, le grand remplacement. Il faut constater que ça n'a pas marché. Ça a marché pendant quelques mois et au moment de l'élection, ça n'a pas marché. Depuis qu'il a perdu, le thème est revenu dans le débat public.
Julien Drey.
Enfin, le thème est revenu. Quand on regarde les préoccupations des Françaises et des Français, les sondages ne montrent pas que le thème est revenu. Il n'est pas le numéro un, le thème immigration.
En tout cas, dans l'actualité, pardon.
La question, donc c'est pas exactement la même chose déjà. Le thème qui est aujourd'hui dominant pour nos concitoyens, et à juste titre d'ailleurs, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des conditions de vie, c'est la question de la guerre. Bon, c'est quand même ça qui préoccupe le plus nos concitoyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport pour les Républicains, et notamment pour la gauche, ce qui m'intéresse là, parce que je suis de gauche, et par responsabilité, ça veut dire qu'il ne faut rien laisser sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir une ligne claire, pas donner le sentiment qu'on flotte, qu'on est pour, que tout se passe n'importe comment, etc. Donc il faut avoir une fermeté sur l'application des règles de la République, une fermeté sur la gestion des flux migratoires et une fermeté pour la meilleure vie en commun et donc la meilleure répartition de toutes les populations. Et à partir de là, revaloriser les instruments comme l'instruction publique, etc. Si on a cette fermeté-là, je crois que ce ne sera pas le thème dominant des campagnes électorales. Mais si on n'a pas cette hésitation, cette tentation d'avoir une sorte de vision qui au départ se veut généreuse, mais après est laxiste, eh bien effectivement ça peut revenir un des thèmes. Mais en même temps, il a quand même en face de lui un adversaire qui compte, hein, c'est le Front National. Donc la bataille électorale, elle ne se joue pas sur les chaînes de télévision pour lui.
Je vous le dirai tous les dimanches. Hein.
Quoi?
Ça n'existe plus, le Front National.
Ouais, ben voyez. Ouais,
bon. Non, autre déclaration qui est intéressante.
Ça veut donc dire que, quelque part, ils n'ont pas réussi, dans ma tête, à faire cette mutation.
Et que vous n'êtes pas la première cible.
Autre déclaration, quand même, qui est intéressante, parce que vous avez parlé du grand remplacement, mais il y avait aussi dans cette campagne et dans sa théorie, cette thèse, c'est le grand déclassement, ouais, le déclin français. La France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde, elle veut devenir le tiers-monde. Le déclin français, c'est peut-être là où il appuie, où ça fait mal en quelque sorte, parce que le déclin français, on le voit tous les jours, que ce soit dans la santé, dans l'éducation nationale, même notre armée, ce déclin de l'État et ce déclin français, on le voit au quotidien en quelque sorte.
En fait, moi, pour avoir beaucoup lu, voire lu tous les livres d'Éric Zemmour avant qu'il se lance en politique, il est hanté par le déclin. C'est quelqu'un qui est hanté et qui d'ailleurs explique que les grands hommes que lui admire dans l'histoire de France étaient hantés de la même manière par le déclin. C'est-à-dire que Napoléon est hanté par le déclin de la France, le général de Gaulle est hanté par le déclin de la France, et ils essayent de sublimer, en tout cas de retarder l'échéance. C'est exactement ce que de Gaulle dit d'ailleurs, il retarde l'échéance. Il essaye, de par sa prestance et par son action politique qui est exceptionnelle, de faire un trompe-l'œil pour ne pas montrer que la France est en train de devenir de plus en plus petite. Et en fait, Éric Zemmour, je pense, se vit de la même manière. Donc le déclin, c'est quelque chose qui est présent chez lui dans ses livres, pour le coup, depuis le tout début. Julien, vous le connaissiez bien avant moi, et je pense que vous constaterez qu'il a depuis longtemps pensé la même chose. Ce que j'entends dans ce discours, c'est une manière de se raccrocher aussi à l'actualité. C'est-à-dire que toute l'obsession de Zemmour, encore une fois, parce qu'il vient du monde des idées, c'est de dire qu'il a raison. Et donc l'accumulation de petites choses qu'on voit tous les jours, qu'on commande d'ailleurs ici sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire ici une agression à la hache, ici un bateau qui rentre dans le port de Toulon alors que à l'origine on n'était pas censé l'accueillir, un hôpital qui ferme, les services publics qui se délabrent, l'école qui vit une offensive islamiste, eh ben il s'en sert pour essayer de prouver que son diagnostic était bon. En 2022, quand il s'est présenté.
Un dernier mot sur le déclin français.
Moi, ça fait depuis que je suis tout petit, donc ça fait très longtemps que j'entends parler du déclin français. Régulièrement, il y a des auteurs à la mode qui viennent pour nous expliquer. Alors, il y a des choses qui ne vont pas en France.
Oui.
Moi, j'en ai... D'accord, mais je ne suis pas de ce courant de l'autoflagellation permanente de la France. Il y a toujours l'impression que la France va mourir, que la France va disparaître. Moi, je crois en la France. Mais pourquoi je crois en la France? Parce que je crois que les idées qui ont fondé la France sont plus fortes que tous les appareils. Et c'est pour ça que j'adore ce pays. Parce que je pense qu'il est fondé sur une telle identité, une telle force qui peut traverser toutes les crises. Et c'est pour ça que je suis en colère quand je vois que les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Et que, y compris un certain nombre de responsables politiques, n'ont pas confiance dans leur pays et dans leur peuple.
Mais vous vous trompez juste sur...
En 10 secondes, parce qu'on déborde.
Vous vous trompez sur les déclinistes. Moi, je pense que vous me mettez dans la catégorie des déclinistes. Non, et vous avez raison. Et vous avez raison. Mais parce que je pense que les choses vont mal.
Je pense que ça ne sert à rien de sans arrêt faire des constats en disant ça va mal, ça va
allez,
mal,
mais
ça va
c'est
mal.
Terminé.
Quand ça va mais mal, il faut le dire. Mais la France, c'est aussi des choses formidables.
Allez, en un mot, vraiment.
Par exemple, le déclin de l'armée française, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, quand ils se battent, ils pensent que notre armée est en déclin. Mais au contraire.
Mais quand on est passionné, oui, mais elle n'a plus l'argent pour se payer des patrouilles océaniques.
Enfin, elle peut tenir 4 jours en
elle est aussi. Tout le monde le reconnaît, les soldats français sont excellents.
C'est fini. Voilà. Merci à tous les deux, c'était un plaisir de vous avoir ce dimanche. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr et voir, parce qu'on avait plein de thèmes, mais comme le débat était passionnant sur l'immigration, on a laissé, donc on a oublié quelques thèmes et on va les traiter dans Soir Info Week-end à partir de 22h. Mais avant cela, c'est évidemment Yvan Rioufol, face à Rioufol avec Olivier de Carenfleck. Allez, restez sur CNews.